France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, des émissions drôles. Épisode 3, jeu de cerveau chez les papous. Parmi les pires insultes des cours de récréation, il y a celle où on vous traite d'intello. Cette insulte est trop souvent minimisée sous prétexte que les intellos seraient les chouchous des profs, ce qui est censé compenser leur malheur. Grande erreur, les intellos se moquent bien de l'appréciation des adultes, qui vaut beaucoup moins que celle de leurs congénères de petite taille. À mon avis, il faudrait un jour inventer une science sociale qui étudierait les discriminations que subissent les enfants à lunettes avec de bonnes notes au CM2. On pourrait appeler ça les « nerd studies », du mot anglais « nerd intello ». Dans cette nouvelle discipline universitaire, il y aurait une branche chargée de faire l'histoire de ces petits intellos, filles et garçons, qui ne savent pas toujours très bien jouer au basket. Plusieurs thèses de doctorat seraient consacrées à ce phénomène, et en particulier au fait que les intellos reçoivent plus souvent que les autres le ballon en plein dans leurs lunettes, comme si leur visage ressemblait davantage à un panier que celui de leurs petits camarades. Parfois, c'est même le prof de sport qui le leur envoie. Violence ludique et intellophobie dans les établissements scolaires de la moyenne enfance, ça pourrait faire un bon titre de thèse. À force d'études de terrain, les sociologues affiliés aux Nerd Studies pourraient affirmer, preuve à l'appui, que la meilleure manière de soigner le syndrome de stress post-traumatique subi par les intellos serait de réussir le concours de Sciences Po. Ou alors, encore mieux, de devenir Premier ministre. C'est d'ailleurs la voie qu'a choisi Gabriel Attal, intello, quoique sans lunettes, de l'école alsacienne, dont on se rappelle qu'il a été harcelé dans son jeune âge par le militant d'extrême-gauche, Juan Branco. D'ailleurs, quand Gabriel Attal a pris son poste le 9 janvier 2024 et qu'il a fait son discours sur le perron de l'hôtel Matignon, on avait du mal à entendre autre chose qu'un message subliminal destiné à son ancien tortionnaire, message que je traduirai par cette expression « nanananana ». Ce soir-là, la vengeance était un plat qui se mangeait très froid dans la cour de l'hôtel Matignon. D'ailleurs, les mains du Premier ministre tremblaient. D'autres disciplines des Nerd Studies pourraient apporter leur pierre à une meilleure compréhension de la souffrance des intellos. Notamment, des sociologues pourraient s'intéresser à leur sociabilité particulière. Car contrairement à la légende, eux aussi ont des amis. Ils ont même entre eux des pratiques bizarres que réprouve la morale des vestiaires de basket. Par exemple, beaucoup d'intellos se retrouvent de manière un peu honteuse dans des endroits spécialisés pour s'adonner, sous une lumière un peu feutrée, à des jeux littéraires sous contrainte. Eh oui. Bien sûr, ils ne s'en vantent pas, ils ne le disent pas à leurs parents. Parfois, ce sont les parents qui s'en rendent compte par eux-mêmes, alors ils se rassurent au sujet de ces pratiques, en se disant que, paraît-il, on n'est vraiment nerd qu'à la centième fois, avant on expérimente, c'est tout. Un jeu littéraire à contrainte avec ses amis de la colo, à l'âge où on ne sait pas totalement qui on est, bon, ça peut encore n'être qu'une passade, on croise les doigts. Je crois fermement qu'un jour, des historiens des Nerd Studies identifieront le moment où la honte a changé de camp, le mai 68 des nerds, le Stonewall des intellos. Et je pense qu'ils dateront précisément ce moment de la fierté nerd à un mois en particulier, celui de septembre 1984. C'est en effet le mois où a été mise à l'antenne l'émission des Papous dans la tête.
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 Avec les papous, les intellos et les cagneux de toutes origines ont enfin pu relever la tête, se retrouver dans un safe space, une chambre à eux, rien qu'à eux. Plus les papous avaient du succès, moins ses auditeurs se sentaient isolés. Parfois, ils se rencontraient même dans le public des émissions enregistrées à l'extérieur. C'est alors qu'on s'est rendu compte que les nerds n'étaient pas, comme on le croyait, une poignée d'individus isolés, mais qu'ils représentaient une armée nombreuse de lecteurs et de lectrices. On s'est aussi aperçu qu'il n'était pas si simple, comme on l'avait cru d'abord, de les reconnaître au premier regard. Tous, en effet, ne portaient pas de lunettes. Certains étaient même cool, sportifs, et la légende prétend qu'il y en avait de musclés. Ils se cachaient dans toutes les strates de la société, on en trouvait dans tous les métiers, tous les milieux. Certains vivaient seuls, d'autres fondaient des familles. Contrairement à ce que l'on disait, nombre d'entre eux et d'entre elles étaient couverts de femmes et d'hommes à ne plus savoir qu'en faire. En fait, les nerds étaient partout. Ils étaient un pouvoir et une force, ils n'étaient pas tellement malheureux et parfois même au contraire. Ils se reconnaissaient dans la rue par de petits signes discrets et avaient désormais en commun cette pratique qu'ils assumaient au grand jour. Ils écoutaient les papous.
Das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und zockt.
Marabout Kyriel, toute la troupe à l'épreuve pour 3 minutes.
Comme un vol de gerfour du charnier natal.
Talleyrand.
Rond.
Rond de gnon.
Gnon.
Gnon sur la figure.
Gure.
Ur de sanglier.
Des Ardennes. Le sanglier des Ardennes.
L'Ardenne belge.
Ardennes.
Le sanglier des Ardennes belges.
Ah oui, ça c'est pas très pur.
Hein. C'est pas très pur. Ah non, non, c'est non, plus non. Que pas pur. C'est...
Je ne sais pas quoi dire.
Dis recteur.
Recteur de l'île de Saint.
Oui.
Saint-François d'Assise.
Pourquoi pas
6h30.
Miaou.
Où es-tu?
Tuc à toute heure.
Pardon?
Tuc à toute heure.
Tuc à toute heure, oui. Oui. Heure.
Je passe. Ouais.
Des émissions drôles.
Je suis mort de rire.
Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Corner.
Ah, vous riez? Vous forcez pas, hein?
Pas du tout.
Hervé Le Tellier, vous êtes journaliste et écrivain, auteur de nombreux romans, dont L'Anomalie, prix Goncourt 2020. Vous êtes également membre de l'Oulipo et vous avez fait partie de l'équipe des Papous à partir de 1991 et jusqu'à ce qu'elle s'arrête en 2018. À quel point pourriez-vous vous définir comme un nerd ou un intello?
J'étais pas musclé, j'ai entendu cette définition. Le musclé, je pense que c'était Eric Holder.
Donc il y en avait.
Il y en avait un qui, au moins, à un moment donné, avait fait beaucoup de gymnastique. Et moi, je me définirais comme, un type à lunettes, c'est sûr. Enfin, maintenant,
même si vous n'en avez pas.
J'en ai plus, mais à l'époque, j'en ai porté. Et c'était même mon drame. Le monde était très flou pour moi. Et la seule sport que je faisais, c'était la natation. Et vous imaginez l'univers aquatique, où tout est flou en plus. Donc j'avais une sorte de ligne à suivre et je voyais pas arriver le bord. Voilà, c'était mon souvenir le plus terrible de sport.
Alors c'est une émission qui a été un phénomène, qui a compté des fans, qui étaient des fans absolus, des personnes dont on disait qu'il fallait pas leur parler pendant que l'émission était diffusée, qu'il fallait pas, c'était à l'heure du déjeuner, les embêter avec un repas quelconque. Comment est-ce que vous expliquez cet attachement des auditeurs?
Il y avait ce côté collectif qui se sentait, qui s'entendait. Et qui traversaient les cuisines. On voyait que c'était une bande qui s'amusait entre eux. Et je pense que c'était extrêmement sympathique à écouter. Enfin, moi qui l'écoutais aussi, forcément. Bien sûr, c'était mes amis que je pouvais avoir l'occasion de retrouver à l'occasion du repas dominical. Il fallait pas non plus trop me déranger à cette occasion-là. Mais il y avait ce côté-là, il y avait ce côté bande qui a disparu. La dimension collective, la dimension sociétale de la chose qui faisait qu'on avait envie d'être avec ces gens-là. Et je dois dire que quand je suis arrivé, j'ai pas compris ça tout de suite, parce que j'y suis resté quand même presque 27, une petite trentaine d'années, donc c'est long. Et il y a une phase d'adaptation, comme dans toutes les bandes.
Mmh. Et au début, doit être accepté par la bande.
À la fois être accepté, puis à la fois comprendre comment ça fonctionne, comment marchent les jeux, comment marche le rapport avec le public, qu'est-ce qu'on peut se permettre, jusqu'où on peut aller. Et il y avait des gens formidables comme Henri Cueco qui poussait toujours un petit peu, comme on dit, il ouvrait la fenêtre d'Overton de ce qu'on pouvait s'autoriser sur France Culture. Mmh. Et lorsqu'il sortait une trivialité, ce très grand peintre qu'était Henri Cueco, il y avait toujours Bertrand Jérôme qui disait « Oh, Henri, vous n'auriez pas dû ».
Alors il y avait aussi des détracteurs, évidemment, des papous qui disaient « Oui, c'est une émission un peu trop subtile, c'est une émission un peu de l'entre-soi ». Est-ce que vous comprenez cette critique? Est-ce que vous voyez pourquoi on pouvait la penser?
Oui, en même temps, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'était l'idée de faire le contraire de l'entre-soi, c'est-à-dire d'augmenter en fait son propre public en expliquant comment marchaient les jeux, et ça permettait à des gens qui ne connaissaient parfois pas du tout des inventions qu'on avait de participer. Et puis, il faut bien dire que ce sont des jeux sous contrainte et que les contraintes ne plaisent pas tous à tout le monde, c'est pas toujours les mêmes qui nous plaisent. Moi qui suis à l'Oulipo, je sais bien que certaines contraintes de l'Oulipo ne m'intéressent pas.
Par exemple?
Par exemple, je ne sais pas du tout faire une anagramme. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai du mal avec les palindromes, je n'ai pas du tout en écrire. Donc c'est, voilà, c'est pas mon univers. Mais il y a d'autres choses que je trouve très joli, qu'on peut faire, et qu'on avait d'ailleurs adapté pour les papous, qui venaient de chez nous, et on s'est dit un jour, tiens, ça pourrait devenir un jeu.
Oh !
Les gonfleurs de texte.
Ou les pisseurs de copies.
Oh ! Ils étaient quatre. Mon premier avait reçu un texte de 2 ou 3 lignes. Il devait le doubler en volume.
C'est-à-dire faire de 3 lignes, 6 lignes.
Mon deuxième avait doublé les 6 lignes.
Soit 12 lignes.
Mon troisième avait doublé les 12 lignes.
24 lignes.
Le dernier avait doublé encore et bouclé l'histoire.
La 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 la.
Première épreuve, en piste et dans l'ordre, Jacques Jouet, Guy Konopnicki, Patrice Minet et Pierre Gripari. La phrase de départ. Le clavecin bien trempé, au jeu des homophonies approximatives selon le procédé Raymond Roussel. Règle du jeu, s'imposer une phrase qui devra être le début d'un récit à imaginer. Ce récit devra s'achever par une phrase homophonique ou presque de la première, autrement dit un calembour.
La phrase imposée est extraite d'un ancien code pénal. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. François Caradec.
Éteignez donc, il fait jour.
Alors bonjour.
Bonjour, des papous, un programme en 2 temps.
Midi 2, midi 30.
1h moins le quart, 2h moins 20.
Restez donc avec nous.
Les papous ont été inventés par Bertrand Jérôme et Françoise Tressard. Ces deux-là formaient un couple, à la ville comme au travail. Ils avaient auparavant lancé d'autres émissions loufoques sur France Culture, comme Allegro Manon Tropo, Le cri du homard ou Mi fugue, mi raisin. Durant la période papou, ils avaient également en charge l'émission Les Décraqués, version courte et quotidienne de l'émission dominicale. À partir de 2004, Françoise Tressard a été seule aux commandes. On l'entend ici dans le rendez-vous de Laurent Goumard sur France Culture, à l'occasion des 30 ans de son émission.
Comment ce nom est-il venu ?
Oh, mais tout à fait par hasard, par association d'idées. On était dans ma deux chevaux avec Bertrand Jérôme et... Bertrand Jérôme avait rendez-vous avec Jean-Marie Borzex, donc, qui avait demandé l'émission et qui lui avait dit qu'il faudrait trouver un titre. Et on s'arrachait un petit peu les cheveux, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut amuser les gens, mais si on veut un peu être grinçant, gratté, où ça fait mal, donc les poux dans la tête, les papous dans la tête. Et c'est venu très naturellement. Et Jean-Marie Borzex a trouvé ça bien, ce qui était parfait.
Mais c'est le comment ?
Alors Bertrand Jérôme, à cette époque, disait que ce style radiophonique particulier n'existait nulle part ailleurs. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des expériences de radio européenne ou outre-Atlantique qui essayent vous...
Alors, vous avez eu vent de projets de ce type ? Je pense que peut-être à la BBC, il y a des choses qui peuvent ressembler un petit peu. Mais je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine. Je crois qu'on est unique ici.
Ce qu'on appelle une exception culturelle.
C'est vrai que c'était un petit peu unique. Les Allemands avaient quelque chose qui ressemblait un petit peu, mais qui est quand même un peu loin du jeu, qui était les Hörspiele, auxquels avait collaboré Georges Perec avec Eugen Hemmle, mais qui sont des jeux autour du son, autour de la déstructuration de la langue. Pas tout à fait ce que faisaient les papous, qui étaient collectifs, justement, et qui étaient autour de contraintes, toujours assez amusantes, toujours interactives, qui demandaient au public de faire la même chose avec pas mal de tendresse, finalement. Et il y avait aussi cette idée que on foirait parfois complètement l'exercice et que même la foirade était drôle et amusante et je me souviens de moments où on avait des mauvais textes, mais c'était la manière dont on les disait qui sauvait la chose.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels étaient les jeux les plus fréquents pendant ces années où vous avez participé au Papou Hervé Le Tellier?
Oh, il y en avait quand même beaucoup. Il y avait les bourrimés où le public choisissait des mots et on avait 20 minutes pour écrire une chanson. Alors on avait quand même la chanson en tête et donc on s'imposait d'utiliser dans cette chanson, parce qu'on n'est pas des chanteurs, hein, et on est même parfois de très mauvais chanteurs et c'était ça qui rendait la chose drôle. Et donc on allait chanter sur un air qui pouvait être un Claude François ou un Dalida, on allait chanter quelque chose avec les mots du public. Ça, c'était assez compliqué, mais il y avait toute une série de jeux de cette nature. Moi, j'adorais aussi écrire les vies d'objets, où on décidait qu'on était un grand toilette, ou qu'on était un verre en papier.
Parce qu'il y avait beaucoup d'écrivains, c'est vrai. Il y avait des artistes, ouais. Mais il y avait des écrivains. Et la touche, c'était quand même celle du rapport à la littérature, non ?
Et l'idée de la poubelle aussi. C'est-à-dire que il fallait accepter, et c'était peut-être compliqué plus pour les écrivains que pour les artistes, que la destination finale de notre texte était quand même la poubelle.
Mais après avoir été écouté par beaucoup de
certes.
Gens.
Certes, mais qu'on ne pouvait pas forcément en faire quelque chose au niveau littéraire après, qu'on avait fait rire les gens avec, mais qu'on ne pouvait pas disons, le réutiliser dans nos propres travaux. Mais c'était pas grave du tout, c'était vraiment cette idée-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait même du mal à recruter parfois les écrivains, parce qu'ils se mettaient un enjeu littéraire qu'on ne pouvait pas avoir dans le délai qui nous était imposé. Moi, je prends du temps à écrire, je suis assez long. Au Papou, c'était le contraire, je devais avoir une mauvaise idée ou une bonne idée, et traiter en 20-25 minutes. Et c'était cet enjeu-là qui était intéressant, qui mettait une vraie tension.
Donc c'était un exercice d'humilité aussi pour les personnes qui participaient.
Oui, un exercice d'humilité.
Enfin, de mise en danger,
en tous mise en danger, cas. Oui, une mise en danger. Une vraie mise en danger, parce que quand on trouvait pas, quand on devait, il fallait quand même fournir quelque chose. Il n'y a jamais eu d'exemple où il n'y avait pas un texte fourni à la fin.
Si vous aimez lire, si vous aimez la rencontre avec les écrivains, si vous voulez faire la connaissance de nos écrivains papous, vous êtes tous conviés au Salon du Livre de la Porte de Versailles à Paris. Avec moi sur cette grande scène, Violaine Schwartz, Gérard Mordilla, Serge Joncourt, Lucas Fournier, Odile Conseil, Hervé Le Tellier, Jacques Abertrand, Patrick Beignet et Jean-Bernard Pouy.
À quel point c'était important les extérieurs, Hervé Le Tellier ?
À cause de la tension, d'abord, c'est dont on parlait, là, plus loin, tension. C'est-à-dire la manière...
Bah, la tension aussi.
Dont le rapport au public était sous-tendu par vraiment l'existence devant nous de gens qui nous regardaient. Et ça comptait, c'est un petit peu l'intérêt de la chose. On n'avait pas de possibilité de tricher aussi, ça c'était vraiment intéressant. Et puis... on était tous ensemble aussi, donc on faisait groupe et on interagissait plus peut-être que dans l'émission, parce qu'il y avait ce désir de faire rire, y compris les gens qu'on voyait devant nous. C'était une émission qui se déroulait dans un studio, donc on pouvait se faire rire entre nous, mais il n'y avait pas ce côté faire rire le public.
Et puis là, c'était vraiment un spectacle, parce que vous étiez sur la scène à travailler, voilà. Tandis que d'autres faisaient leur sketch,
voilà. Si on peut appeler ça un sketch. Et c'est plus dangereux de se faire rire entre soi.
Cette équipe, est-ce que vous diriez que c'était une équipe de copains ?
Oui, copains, copines, Hélène Delaveau, tous ceux qu'on a cités là et qu'on a entendu Françoise nommer. Certains ont disparu, Jacques Abertrand, formidable écrivain.
Donc les papous se voyaient en dehors de l'émission ?
Pas tellement. En fait, on se voyait à l'émission, on n'était pas tellement amis en dehors, sauf certains qui, les Oulipiens par exemple, se voyaient à l'Oulipo. Mais on se voyait pas en dehors parce que c'était tellement intense.
Mais alors, vous ne saviez pas avec qui vous alliez jouer.
Non.
Alors, c'est important, les partenaires, intellectuellement, pour que ça fonctionne bien et que ce soit fluide. Donc, quand vous arrivez le jour de l'enregistrement, vous dites, ah, bon, là, ça va bien marcher, ou ça va pas bien marcher, ou ça va être plus difficile.
Non, Bertrand, puis Françoise avaient une sorte de sens un peu inné de la manière dont ça pouvait coller ou ne pas coller, parce que parfois, le fait que ça frotte peut être extrêmement intéressant. Comme on était des gens très sociaux, très amicaux, on n'avait pas une tendance à vouloir planter l'autre ou quoi que ce soit. Donc on était toujours à la recherche d'une différence, et c'était cette différence qui faisait l'intérêt de l'émission.
Est-ce qu'on pouvait se préparer à cette émission, ou est-ce qu'il fallait vraiment arriver les mains dans les poches et...
Non, il y avait des émissions où il fallait avoir écrit. Donc on arrivait avec quelque chose qui pouvait nous avoir pris 2 heures, 3 heures, une journée complète, et c'était ce texte-là qu'on présentait et auquel on avait 2, 3, 4 réponses successives. Donc il y avait un travail antérieur avec lequel on arrivait. Et heureusement, parce que parfois ces textes étaient élaborés et on n'aurait pas pu produire 10 minutes dans l'heure qu'on avait.
Reproduire fidèlement l'atmosphère des papous en diffusant quelques extraits d'archives n'est pas évident, car c'est dans la longueur que s'apprécie leur humour et qu'on entre dans leur jeu. Au papou, il n'y avait pas de phrase choc, de punchline toutes les 20 secondes, le rythme n'était pas le même que dans les émissions d'humour traditionnel. Prenons un exemple, pour bien apprécier ce qu'était l'exercice du lipogramme, qui consiste à supprimer d'un texte une lettre en particulier, il faudrait diffuser un extrait d'au moins 10 minutes. Au départ, en effet, le texte initial d'un auteur célèbre était lu. Ensuite seulement, le papou qui avait réécrit le texte venait donner sa version, avec la contrainte d'une lettre en moins. Les auditeurs avaient donc en tête le texte de départ, ce qui changeait leur façon d'écouter sa parodie. On va quand même donner une idée du résultat, avec une fable de La Fontaine, lipogrammée par l'homme de radio et de télévision, Jean-Christophe Averty.
« Travail est un trésor.
C'est pas vrai, ça.
Alors, Jean-Christophe Averty, on vous a confié ce texte et on vous a demandé de faire là-dessus un lipogramme en R.
Alors, ne prenez pas votre stylo, votre crayon et ne suivez pas mot à mot ce que je vais dire, car l'ensemble du sens de cette poésie est préservé, mais le mot à mot n'est point conservé.
Pour l'instant, l'essentiel,
non,
c'est qu'il n'y ait pas d'air.
Oui, c'est tout. Alors, j'ai pas eu de problème pour Jean de La Fontaine, fable 9.
Parfaitement.
Le paysan et ses enfants.
Voilà. C'était là un laboureur. Ouais. Ça colle.
Ah non, mais si vous ne cherchez pas le mot à mot, vous ne le trouverez pas.
Bah, c'est bon, là, jusqu'ici, c'est
eh
le
ben,
mot à mot.
Eh ben, on vous dit que c'est bien.
Le paysan et ses enfants. Bossez, suez.
Travaillez, c'est bien.
Soyez au boulot.
Prenez de la peine, très bien.
Allez, plus vite et que ça gaze. Un paysan nanti.
Un riche laboureur, très bien.
Sachant qu'aux asticots, sa bidoche vieillie en tant que plat de base avait été vendue avant qu'il calanchât.
Eh ben vous voyez, j'aime bien.
Eh ben c'est très bon.
Ah, c'est très
bon. C'est très bon.
Oui, regardez qui est d'accord avec moi. Sentence à mort prochaine. Ça, c'est très bien.
Oui.
C'est très bien. C'est une des meilleures choses que vous ayez faites depuis longtemps.
Mais je crois qu'il faudrait arrêter là.
Hervé Le Tellier, que vous inspire cet extrait?
Non, j'entends la voix de Karadec, je suis un peu ému, c'est vrai. ça m'inspire cette complicité absolue qu'on a, et puis ce petit côté un peu teigne. Ah c'est pas mal, c'est ce que vous avez fait de mieux depuis fort longtemps. Mmh. Voilà, que je trouve assez charmant.
Est-ce que les papous se considéraient comme des humoristes? Est-ce que ils se considéraient comme faisant des choses qui pourraient ressembler à des sketchs?
Non, mais on savait que l'émission était une émission d'humour. Il n'y avait pas de doute sur ça. Mais se considérer comme un humoriste, non. C'est un truc de spectacle. C'est un métier, humoriste. On n'était pas des gens du tout de spectacle. Ça se voyait. C'était aussi ça qui était touchant, je pense. On n'était pas les clowns de nous-mêmes. On était nous-mêmes. Et c'était aussi ça qui était amusant. C'est qu'on jouait avec non pas des personnages, mais nos personnalités. Et ça fait quand même la différence avec un humoriste. Un humoriste, il y a toujours un peu un clown.
Et le public n'était pas passif. Le public jouait avec vous, même s'il ne participait pas directement, mais il y a un côté très interactif dans le sens où voilà, chacun peut, dans sa tête, faire aussi un peu l'exercice, ou en tous les cas suivre le processus qui a conduit au résultat, et donc participer de cette façon-là.
Oui, il y avait un des jeux qui d'ailleurs était un jeu entre guillemets culturel, qui était expert contre faussaire, ou un deuxième qui s'appelait le diagnostic littéraire à l'aveugle, où on proposait un texte à un auteur connu, dont on ne donnait pas le nom, et les experts que nous étions essayions de deviner qui était cet auteur caché. Et le public collaborait lui aussi en donnant ses propres noms, parfois meilleurs que les nôtres. Voilà. Et c'est un moment amusant parce que, en fait, personne n'a tout lu. Et donc, parfois, on inventait parce qu'on n'avait aucune idée. On ne pouvait pas deviner que ce texte était de Fitzgerald parce qu'on n'a pas lu tout Fitzgerald ou que c'était un texte de Simenon. Et on était un peu dans une sorte de brouillard. On savait qu'on allait se ridiculiser un petit peu, on allait dire que c'était Simenon alors qu'en fait c'était du Joyce ou du Rob Grillet. Hein, c'était absurde.
Ça relativise aussi les catégories dans lesquelles on met les écrivains, parce qu'on se rend compte que finalement on peut pas les mettre comme ça dans des cases.
Et puis aussi ça demande une distance par rapport au style, où on était incapable parfois de voir si c'était traduit ou pas.
La question de la bienveillance de cet humour, est-ce qu'elle était présente pour vous, l'idée que finalement on pouvait rire sans être méchant, qu'il y avait d'autres façons de faire de l'humour?
Il y a beaucoup de façons de faire de l'humour sans être méchant. Et il y a des gens qui sont méchants avec eux-mêmes. Ce qui est une forme d'humour subtile et merveilleuse, qui est de ne jamais se moquer de son public et de ne jamais se moquer d'autres, mais uniquement de soi. Voilà, ce sont ces genres d'humour que j'aime bien. Donc, on peut être méchant, mais avec soi, et puis on peut avoir des petites piques, parce qu'au fond, entre amis, si on n'a pas de piques, ça prouve pas l'amitié, quoi. L'amitié est capable de résister à ça.
Les papous se cooptaient entre eux ou recevaient des invitations à rejoindre l'équipe de la part de Françoise Tressart et Bertrand Jérôme. Il est arrivé aussi que des candidatures spontanées soient acceptées. Mais l'un des foyers de recrutement était évidemment l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Ce groupe, fondé en 1960 par des écrivains et des mathématiciens, explore depuis lors les possibilités de la création littéraire en s'imposant des contraintes formelles, ce qui est l'ADN des papous. L'un des plus célèbres oulipiens s'appelait bien sûr Georges Perec.
Alors, produire un palindrome d'une phrase était relativement facile. Produire un palindrome d'un texte de 6 pages est beaucoup plus compliqué. Ça représente un an de travail. Et c'est... je veux dire, il se passe quelque chose dedans. Enfin, c'est... un anagramme, c'est bon, par exemple... dans le mot Sparte, il y a le mot trépas et il y a le mot pâtre. C'est une manière de réorganiser les lettres d'un mot et de produire d'autres mots. Et le lipogramme consiste à se priver d'une lettre. Écrire un texte sans W est facile. Écrire un texte sans E en français est beaucoup plus compliqué. Ça fonctionne comme ça. Écrire un texte sans E... D'abord, on pense qu'on n'y arrivera pas du tout.
Mais vous avez écrit un livre de 300 pages sans E qui s'appelle La Disparition. Et au fond, je me demande si le lecteur non prévenu s'apercevrait que le E manque.
Hervé Le Tellier, que vous inspire cette archive ?
Oh bah, c'est une archive que je connais assez bien. Il a raison. C'est dommage qu'il n'ait pas été au Papou, puisqu'il est mort en 82 et que les Papous ont commencé en 84. Il a fait partie un petit peu de l'équipe de Allegro Manantropo, il a participé au Panorama. Quand on faisait un lipogramme, c'était très difficile de ne pas penser à Pérec. Et je me souviens, par exemple, la forme qu'a adopté Pérec, qui sont ces séries d'anaphores, je me souviens, je me souviens, je me souviens, c'est quelque chose qu'on a fait au Papou sous d'autres formes. Des gens qui commençaient toujours par la même phrase, etc. Les kyrielles qu'on a entendues aussi. Les kyrielles, ce sont ces choses, marabout, bout de ficelle, celle de cheval. Ça aussi, c'est quelque chose que Pérec affectionnait.
Est-ce que vous diriez que depuis l'époque des Papous, l'humour a changé ou nous avons changé par rapport à l'humour ?
Non seulement l'humour a bougé, mais le rire a bougé. Les gens ne rient pas de la même façon. Quand on écoute des sales rires à Fernand Reynaud, c'est pas les mêmes rires.
Ah, vous
que
dire, le rire lui-même le rire a lui-même, changé.
Le rire lui-même a
Comment
changé.
Comment vous expliquez ça ?
Je sais pas. Je pense que c'est un rapport au corps. Le 19e détestait le rire. Pourquoi ? Parce que le rire est une expression du corps. Et donc, le corps s'exprimait. C'était quelque chose d'insupportable dans l'univers bourgeois dans lequel le corps devait rester engoncé. Donc, il fallait pas rire. Le rire de Bergson... Enfin, Bergson, dans son livre, explique assez bien ça. Et puis, la manière dont c'est perçu... Dont les Anglais ne disent pas, ne rient pas de la même façon que les Français, qui ne rient pas de la même façon que les Allemands, pas de la même façon que les Italiens ou les Espagnols. C'est toujours intéressant de regarder comment des peuples ont des rapports à l'humour et même s'expriment de manière physique lorsqu'ils rient de manière différente. Donc oui, ça bouge tout le temps.
Les papous dans la tête.
En 2018, les Papous disparaissent de la grille de France Culture, remplacés par une autre émission confiée à un membre de l'équipe, Odile Conseil. Mais ce nouveau format, l'épingle du jeu, s'arrête après seulement 4 numéros. Hervé Le Tellier, j'imagine que vous regrettez cet arrêt ?
Oui, je regrette l'arrêt. Je pense que c'est compliqué de faire une émission d'humour. Celle-ci, dans l'équation budgétaire de France Culture, était compliqué parce que c'est, même si on n'est pas payé beaucoup, on peut révéler combien on a été payé, on a été payé 150 euros par émission, ce qui est pas bézef, parce que, en fait, derrière, il y a une journée à venir, enfin, il y a du temps, quoi, derrière, donc c'est pas beaucoup, et c'est du travail, mais si on multiplie ça par le nombre de participants, ça fait soudain une somme à sortir qui n'est pas négligeable, c'est de la création, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a jamais été relancé.
Les Papous n'ont jamais cherché à choquer, mais simplement à amuser, tout en s'amusant eux-mêmes. Sur la chaîne Sœur France Inter, d'autres émissions d'humour ont en revanche parfois pu créer la polémique. Cela a été le cas en particulier de « À votre écoute, coûte que coûte », un programme qui a été aussi bref que marquant et qui a fait hurler une partie des Français, de rire, mais pas seulement, comme nous allons vous le raconter tout de suite dans notre dernier épisode.